marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La radiodiffusion française vous invite à écouter...
Les premières polémiques en France sur l'environnement 1800-1930.
Camembert fils fait les honneurs de la belle chambre.
Monsieur le major, que vous allez dormir là-dedans comme qui dirige une marmotte.
Mais malgré les assurances du sapeur, le major s'obstine à ne pas fermer l'œil. Il est même fâcheusement impressionné par une odeur qu'il qualifie de suisse generis, vu qu'elle lui semble venir d'une porcherie voisine de la belle chambre.
Avez-vous bien dormi, monsieur le major?
Faites-moi, mon ami, faites-moi. Seulement, tu devrais dire à ton paternel de mettre la porcherie plus loin de la maison d'habitation.
Hein? Et pourquoi ça, monsieur le major, sans vous commander?
Pourquoi ça? Parce que ça n'est pas sain.
Pas sain? La porcherie! Mais voilà bien 35 ans qu'elle est là et nous n'avons jamais eu un cochon de malade.
Nous sommes en 1890, au cœur de la période que nous allons considérer avec le sapeur Camembert. Tenant de l'hygiène, les hygiénistes s'inquiétaient de l'effet délétère des miasmes, porteurs d'épidémies. Les citadins, qui poussaient par les premiers trains jusqu'à la forêt de Fontainebleau, puis jusqu'à la côte, jusqu'à la montagne, se demandaient que préserver de ces beautés au nom du plaisir des sens. Les techniciens et les ingénieurs enfin s'interrogeaient. Leur but n'était pas de préserver dans une extension esthétique, mais leur question c'était quelles ressources conserver afin de les transmettre aux générations futures. Une école à Nancy les formait depuis 1824, on l'appela plus tard l'école des eaux et forêts. C'est autour des eaux et des forêts que, justement, les premières polémiques s'organisèrent. Elles concernèrent peu à peu de plus en plus de Français. Les eaux. Les inondations étaient redoutées. La mémoire a gardé le souvenir de celle de 1910, mais le milieu du 19e siècle en avait connu beaucoup, à intervalles très proches. Celles de 1856 touchèrent les deux tiers de la France. Les forêts. Il ne fallait pas s'étonner des effets dévastateurs des eaux. La pente naturelle était, à l'époque, d'accuser la déforestation de tous les maux. Les savants du 19e pensaient volontiers qu'elle avait causé la perte des anciennes civilisations, celles de l'Afrique romaine, comme celles de la Mésopotamie. Une des justifications de la colonisation de l'Algérie, c'était la volonté d'y replanter la sylve que les nomades arabes avait volontairement laissé à l'abandon. Le sable du Sahara serait ainsi contenu là-bas comme ici celui du département des Landes. Le mot « environnement » n'existe pas encore au XIXe siècle. On pense volontiers en termes de régénération. La régénération passe par la plantation d'arbres et le repeuplement des eaux.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Caroline Ford, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire française à l'Université de Californie à Los Angeles. On verra comment vous avez investi cette question centrale de l'histoire de l'environnement, mais racontez-nous comment vous êtes intéressé à l'histoire française, vous qui êtes né à Bagdad.
Je suis fille d'un diplomate américain. Et donc, j'ai grandi en Europe et j'ai étudié la langue française, l'histoire européenne. J'ai fait ma licence en littérature, mais après avoir passé une année à Sciences Po, en fait, j'ai décidé de changer de sujet et j'ai fait un doctorat en histoire et histoire de la France.
Alors, votre doctorat se passe en Bretagne. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Il paraît enfin, après 25 ans, aux presses universitaires de Rennes, à la rentrée, mais le dernier livre, beaucoup plus récent, celui que vous consacrez à l'environnement, paraît chez Alma, à Paris, Naissance de l'écologie, les polémiques françaises sur l'environnement. Environnement, mot qui vient de l'anglais.
Oui, mais le concept de l'environnement, si vous voulez, je crois qu'il était déjà là en français, mais il y avait des mots tout à fait différents. Milieu, par exemple, il y a une tradition de la géographie en France qui était très importante, et aussi même l'école des Annales. Étudier l'environnement très tôt, l'importance du sujet du climat.
Donc,
et de changement
Lucien
de
Febvre,
climat.
L'école Lucien des Annales, Febvre. Vidal de la Blache, le grand géographe, utilisait parfois, dans une acception plus restreinte qu'aujourd'hui peut-être, le mot environnement. On va remonter encore plus haut, au lendemain de la Révolution française. Votre livre s'ouvre par un chapitre qui nous permet de découvrir François Antoine Roche. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est un homme qui vient de l'Est, qui parle allemand d'ailleurs, et qui est un petit ingénieur des ponts et chaussées. Enfin, je dis petit parce qu'il a connu beaucoup de difficultés, il a été assez malchanceux dans sa carrière. Et à deux épisodes, il est entré dans l'espace social, pendant le consulat d'abord, et puis beaucoup plus tard sous la Restauration, en défendant l'idée qu'il fallait faire fructifier les richesses de la nature et d'abord les protéger.
Exactement. Il était en quelque sorte le père fondateur de l'environnementalisme en France, mais on ne l'a pas étudié tellement parce qu'il n'était pas un savant, il était un ingénieur. Il était en quelque sorte un vulgarisateur. Et il a parlé de l'harmonie de la nature et il a identifié, et c'est pour ça que je l'ai choisi pour le premier chapitre, quelques thèmes qui sont devenus très importants pendant le 19e siècle. La déforestation d'abord, les inondations et l'harmonie de la nature.
La déforestation qui avait sévi pendant la Révolution, notamment à cause de la vente des biens nationaux, mais déjà l'administration d'Ancien Régime n'arrivait plus à contrôler, comme au XVIIe siècle, la fructification des forêts. Alors lui, il était ingénieur des ponts et chaussées, et on va voir dans la première séquence de temps qui vous intéresse, les lendemains de la Révolution, l'Empire, la Restauration, naître un autre corps d'ingénieurs qui sont spécialistes des eaux et forêts. Enfin, l'école qui est fondée à Nancy en 1824 s'appelle pas tout de suite eaux et forêts, mais peu importe.
Oui. Il y avait déjà une sorte de service d'eau et forêt qui était fondé au XVIIe siècle sous Colbert et Louis XIV, mais c'était quelque chose qui était plus important au XIXe siècle, et c'était justement au moment de la Révolution où on a discuté. On a fait un débat sur la question des forêts, dans un sens beaucoup plus important.
Alors, pendant la Révolution, on a laissé faire.
Oui.
Michelet disait qu'un paysan, pendant la Révolution, pour se tailler une paire de sabots, il abattait deux pins.
Oui.
La Restauration essaye de reprendre le contrôle en même temps qu'elle crée cette école. En 1827, il y a un code forestier qui multiplie les amendes pour qu'ils ne se comportent pas bien dans les forêts. Et vous racontez un peu cette histoire incroyable, la guerre des demoiselles en Ariège, 1829-1832. Oui. C'est quoi ça?
C'était les paysans de l'Ariège qui étaient en fait contre
les amendes,
le service forestier, et donc ils se sont déguisés comme femmes et ils ont résisté le service forestier pendant 2 ou 3 ans comme ça. Ils étaient battus à la fin, mais c'était un moment assez important.
Alors, les eaux, premier chapitre.
Oui.
La pollution des eaux. Nous sommes dans les anciens états pontificaux, le comtat Venet Saint, qui a appartenu au pape jusqu'à la Révolution, et les pêcheurs de la Sorgue, qui ont intéressé beaucoup René Char, qui habitait la région. Il bénéficiait d'un certain nombre de privilèges, d'habitudes, jusqu'à ce qu'un industriel, un papetier, s'installe et viennent empoisonner la rivière avec ses rejets.
Après que chacun de nous a pu se rendre compte que ce n'était pas un, mais 1000 poissons qui étaient empoisonnés, il fallait avoir le cœur net de la raison de ce malheur.
Et ceux qui font cette besogne, Ce sont les fabricants de papier.
Ils le font exprès.
Le papier, c'est pas du poison. C'est-il du papier à mouche qu'ils fabriquent?
Si les riches sortaient plus souvent dehors, ils verraient mieux ce qui s'y passe.
Patron, ça les intéresse pas. Quant au patron de la fabrique, il ne parle qu'à ceux de sa classe.
Francis, raconte ce que tu sais.
Alors je me suis tourné du côté des eaux et forêts. Je reviens du chef-lieu.
T'as eu raison. C'est leurs oignons, la rivière. À ses huiles des bureaux.
Comment il t'a reçu?
Il est fier.
Il s'en lave les mains. Textuel, ses paroles. De quoi vous plaignez-vous, les pêcheurs de Saint-Laurent? Voilà 400 ans qu'on vous favorise. Vous ne voudriez tout même pas que le monde s'arrête de progresser à cause de vous?
Alors les ingénieurs, ils ont une double réputation. On attend d'eux la préservation, mais ils sont quand même dans la compétitivité, dans la lutte pour les intérêts économiques. Ce que vous notez tout au long de votre livre, Caroline Ford, c'est que ces débats intéressent de plus en plus les gens au XIXe siècle. Ce qu'on ne savait pas.
Oui, oui. Je crois que ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a étudié la question de l'environnement, surtout dans la pensée écologique des savants ou des scientifiques. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était le grand public. C'était justement le grand public qui s'est intéressé à ces questions assez tôt. À cause des désastres naturels, par exemple, et à cause de la question de la pollution des rivières, par exemple, et des villes. Et c'était vraiment au début du 19e siècle qu'on trouve des récits, des gens vraiment très modestes sur cette question.
Les inondations, 1740, 1784, 1802, 1836, 1840, 1846, 1852, 1856. Retenez bien la date de 1856 et puis l'apothéose qui est restée inscrite dans les mémoires parce que Paris a été très longuement touché, 1910.
Les rats!
Chassés des égouts, les rats envahissent les maisons, montent dans les étages. Jamais on n'en a vu de pareil. Ils sont aussi gros que des chats et se montrent agressifs. Le commissaire de Saint-Germain-l'Auxerrois a dû lutter contre une légion de rongeurs à coups de canne après avoir épuisé les 6 balles de son revolver. Et il a été cruellement mordu à la main droite.
À Bercy, le flot monte avec une rapidité effroyable. Le quartier de la gare fait maintenant partie du lit de la Seine.
De minute en minute, la situation devient plus critique dans le 6e arrondissement. Le quai des Grands Augustins, la rue Gillecœur et la rue Séguier forment un lac sur lequel 2 barques assurent le sauvetage.
Au coin des rues Bonaparte et Jacob, l'eau jaillit des égouts et des pavés.
La rue Bayard, la rue François 1er sont inondées. L'eau est apparue rue de Rouault. La place de l'Opéra menace de s'effondrer.
De toutes parts, les gens fuient.
Les voyageurs du demi-siècle, une émission de 1950. Oui, mais 1856 auparavant, pas seulement Paris, les 2/3 de la France. Une inondation très documentée et aux archives nationales, vous avez trouvé dans des boîtes je ne sais combien de lettres adressées aux Tuileries, à l'empereur Napoléon III, chacun donnant une explication et des solutions à l'inondation.
Oui, exactement. En fait, Napoléon III, il a fait une enquête lui-même et il a demandé au public leur avis sur cette question des inondations.
Et attendez, il a fait une enquête lui-même, c'est-à-dire qu'il a pris les trains, qu'il commençait à circuler, puis il est allé faire des voyages.
Il a fait un voyage, comme on dit à cette époque, compassionnel. Juste après la naissance de son fils, partout dans la France. Et à cette époque-là, il y a la communication, il y avait les journaux qu'il a suivis, les journalistes. Et donc, c'était vraiment la première inondation qui était si documentée. Il avait même un photographe qui l'a embauchés pour prendre les photos partout en France.
On parlait du comte Avenessin, il est monté en haut de la cathédrale d'Avignon et il a fait une photo panoramique.
Et puis, c'était un photographe qui s'appelle Baldus, qui était prussien, qui est devenu français. Oui.
Et alors le débat, c'est la photo forêt, c'est la faute à quoi ?
On dit que c'était, juste au début du siècle, on a dit que c'était à cause de la déforestation. Mais il y avait un débat très, très vif sur cette question. Et c'était entre les ingénieurs qui ont dit que c'était parce qu'on n'a pas investi assez de l'argent dans les digues, dans les levées, surtout pour la rivière de la Loire. Et donc, il y avait une différence d'opinion. Je crois que le discours qui était le plus important, c'était la déforestation.
La déforestation. Alors, on va faire un petit écart par la Bretagne. Votre deuxième livre traduit en français, le plus ancien, ce sera aux presses universitaires de Rennes, à la rentrée consacrée à la religion, à la politique dans le Finistère. Le 9e album de Denès Prigent. Vous connaissez Denès Prigent ?
Oui, je le connais. Oui.
Le grand du chant breton, chez Cobbrez, là, vient de sortir. Et il y a une chanson qui concerne le vent. Les arbres ont tellement disparu que le vent n'a plus personne à qui parler. Alors, vous pourriez traduire, parce que vous connaissez mieux le breton que moi, Denès Prigent dit, il y a un seul avantage, c'est qu'on voit plus facilement venir l'encou.
Les rois des reglas. Et renard blé chômé d'oir crâne, perru au harpoint d'Avervée, en encouvé l'imton de spèce, à cette Auvervée landée, à médagana d'arrêt. Medagan a koul skoude Evit pi ou nous on kere Ase tu o verve lande A medagan a dare A medagan a kezie Même se disons je
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Caroline Ford étudie les premières polémiques françaises sur l'environnement. C'est un livre aux éditions Alma. Notre deuxième partie, on va la consacrer à la forêt. Et le premier dossier, les Landes. Et on se retrouve de nouveau avec votre ami Napoléon III.
Oui, c'est vrai.
Parce que vous trouvez que c'est un régime réactionnaire, mais enfin, néanmoins...
Oui, c'est intéressant, parce qu'on pense très souvent que le mouvement... Et c'est vrai, au XXe siècle, c'était un mouvement plutôt à gauche, mais il y avait des initiatives pendant le Second Empire qui étaient très importantes. Et par exemple, la restauration des terrains de montagne et aussi la replantation des Landes.
Alors les Landes, c'est un problème depuis longtemps parce que c'est le Sahara, il y a du sable infini, alors les côtes bougent.
Exactement, et c'était un problème qui s'occupait les administrateurs au 18e, même le 17e siècle, mais c'était au 20e siècle qu'on a vraiment...
Au 19e siècle qu'on a vraiment...
adressé ce problème. Mais il y avait deux aspects dans mon livre. Il y avait vraiment deux courants de pensée autour de cette question de la protection de la nature. Un courant qui était plutôt préservationniste, qui visait la protection des aspects esthétiques et non utilitaires des paysages et de la nature pour les raisons de la culture ou héritage ou patrimoine. Et le deuxième courant, c'était conservationniste qui prenait plutôt l'aménagement de la nature pour assurer l'existence des ressources pour les générations à venir.
Alors dans les Landes, il y a aussi la combinaison de deux attitudes par rapport à l'État, parce que l'État, c'est une sorte de contrat pour le renouvellement du département. Et il installe une sorte de cordon sanitaire, de protection pour l'esthétique de la côte. Et puis maintenant, c'est l'ONF qui gère cet espace. Et puis, en retrait, avec le prix à payer, c'est la dissolution des terrains communaux, il y a la replantation industrielle.
Exactement. Ces deux aspects qui étaient dans les autres contextes en conflit, mais on a réussi en fait de gérer la situation assez facilement.
Enfin, encore que au milieu du XXe siècle, mais c'est après la période que vous observez, Caroline Ford. Les courants écologistes naissants sont tentés d'interpréter plus négativement le contrat tel qu'il a été pratiqué au 19e siècle. Entendez ici le témoignage des vers, parce que ce sont presque des vers du grand Félix Arnaudin, Mémoire des Landes.
La plantation en allée, écœurante de banalité, borne implacablement la vue, hébète la pensée, en abolit tout essor. Même l'œil avait le perpétuel éblouissement du vide, où l'âme élargie, enivrée, s'abîmait dans d'ineffables et si chères tristesses. A succédé la forêt industrielle, avec toutes ses laideurs, pour le maximum d'argent.
C'est étrange parce qu'on entendait Denis Prigent regretter les bois qui disparaissaient et la lande nue qui apparaissait trop souvent en Bretagne. Et là, c'est l'inverse.
Oui.
Contradiction de l'écologisme, peut-être.
Oui.
Alors, le deuxième dossier dans ce domaine des forêts, c'est celui de Fontainebleau. Alors, Fontainebleau a l'avantage d'être une forêt extraordinaire, 25 000 hectares à peu près, je crois maintenant, et à très peu de kilomètres de Paris.
Oui. C'est ça. Et pendant les années 1840, c'était en quelque sorte la bourgeoisie de Paris et aussi les peintres et les paysagistes qui ont découvert cette forêt, qui sont allés en grand nombre parce qu'il y avait la construction des chemins de fer. Et donc c'était beaucoup plus facile d'y aller. Et la forêt est devenue une sorte de symbole esthétique à la fin du 19e siècle de la nation, de l'héritage. Et il y avait le premier site naturel, une sorte de réserve artistique qui était protégée encore pendant le Deuxième Empire, c'était en 1861.
Mais alors les peintres, les artistes, ils n'ont pas aimé les interventions des ingénieurs sur la forêt de Fontainebleau.
Non, c'est justement, on trouve dans la forêt de Fontainebleau, en contraste avec le cas des Landes, que ces deux perspectives préservationnistes et conservationnistes étaient en conflit avec les forestiers qui étaient plutôt les conservationnistes et les peintres les préservationnistes.
Alors vous racontez ce qui se passe dans une auberge qui est un repère d'artistes où se tiennent des assemblées générales d'adversaires de la plantation en pin.
Oui.
Et alors le peintre ne peut entrer dans cette auberge que si...
Que si ils arrachaient les pins ou les jeunes pins qui étaient plantés par les forestiers. Et donc, le mot ou la phrase, c'était pin pour pin.
Ah oui, et donc avec deux pins, un dans chaque main, il avait le droit d'entrer dans l'auberge.
Exactement.
Oui, mais la maréchaussée, informée par les ingénieurs, piquait parfois des peintres en flagrant délit. Non
oui, exactement.
Ah ouais. Et puis alors, il y avait un autre personnage que vous décrivez qui s'appelle Dencourt.
Denencourt qui, en fait, qui a construit des voies et a publié des livres pour les touristes.
Les guides,
exactement. Pour la forêt. Et donc, il était l'objet de mépris parmi les peintres, en partie, et aussi parmi les forestiers, parce qu'il était en quelque sorte comme Rauch, un vulgarisateur de la forêt de Fontainebleau. Et on a dit qu'à ce moment-là, qu'il l'a fait pour les raisons financières, capitalistes, en quelque sorte.
Mais c'était quand même un malin, parce que il faisait des guides, il produisait des cartes, puis il disait ici « zone non identifiée ».
Oui.
Et c'était oui. des zones où il y avait des sentiers qu'il avait tracés et oui. où on pouvait faire de la randonnée, mais à couvert, quoi.
Oui, exactement. Ouais. Et donc, il y a des parties protégées, en quelque sorte, qui a eu un statut absolument différent. Ouais.
Donc, c'est un champ de bataille, au fond, oui. la forêt de Fontainebleau, quand on y regarde de près. Un directeur au milieu du XXe siècle du Muséum National.
Mais écoutons M. Roger Hain, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle.
N'est-ce pas la forêt de Fontainebleau c'est un sanctuaire, c'est une relique. C'est ce qui subsiste de la grande forêt gauloise, la forêt de Bière. Et c'est là qu'au cours des siècles, les animaux, les plantes se sont réfugiés venant du nord, de l'est, de l'ouest, du sud. Et il s'est créé peu à peu ce qu'on appelle des microclimats, c'est-à-dire des petits climats locaux à l'intérieur même de cette grande sylve. Ces microclimats sont fragiles et à chacun d'entre eux se trouve associé un certain nombre d'espèces. Et c'est pourquoi Fontainebleau est aussi c'est une réserve, c'est en quelque sorte un amphithéâtre universitaire. C'est là où viennent les savants étrangers, les élèves d'écoles, de naturalistes, de Hollande, d'Amérique ou du Japon, pour voir véritablement cette forêt extraordinaire, cette forêt qui est la plus riche du monde au point de vue des insectes, qui est une des plus riches au point de vue des plantes atlantiques, de certaines plantes méridionales qui remontent jusque-là, enfin qui présentent véritablement des qualités scientifiquement étonnantes, indépendamment de l'intérêt esthétique qui s'attache à l'école de Barbizon.
Indépendamment de l'intérêt esthétique, il y a la politique de conservation des espèces. J'aurais que vous vous arrêtiez sur le mot réserve qu'emploie M. Hain.
Réserve, oui.
Qu'est-ce que c'est des réserves? Qu'est-ce que c'est que des parcs?
Ah, c'est très intéressant.
Dans la perspective du 19e, qui est la nôtre.
Oui, c'est très intéressant cette question parce qu'en fait, le premier parc national était Yellowstone Park aux États-Unis. Et c'était un parc qui était ouvert au public, au grand public. Et il y avait un débat tout au long de 19e et aussi de 20e siècle sur cette conception de la protection d'un paysage. Et c'est les Français au 20e siècle qui a proposé l'idée d'une réserve intégrale naturelle.
Où l'homme ne pénètre pas.
Exactement.
Un exemple est cette île, par exemple, au large de Perros-Guirec, c'est pour rester dans votre chère Bretagne.
Exactement, mais on a créé ces réserves premièrement dans les colonies françaises. Surtout Madagascar et Algérie. Et je trouve ça très, très intéressant parce que les colonies étaient une sorte de champ d'expérimentation.
Ben c'est avec c'était plus facile avec les propriétaires.
Oui, exactement.
On traitait plus facilement avec les propriétaires. Oui. Il y avait donc plus facilement des espaces libres.
Oui.
Donc il y a eu davantage de parcs en Algérie française qu'en France métropolitaine.
Oui. Il y avait une vingtaine qui étaient créés pendant les années 20.
Ouais. Et on disait, la France restitue les paysages de l'Afrique romaine que les Arabes nomades ont abîmés, détruits, pillés.
Oui, il y avait tout un discours au XIXe siècle et au XXe siècle que les Français étaient les héritiers des Romains et que leur rôle était de restaurer le paysage de l'Algérie qui était vraiment un pays de richesse agricole, mais qui était détruit par les Arabes pendant les siècles. Et il y avait une sorte de ligue de réforestation qui était créée, ou reboisement, à la fin du 19e siècle, justement par un colon français, Augustin Trollard.
Donc au fond, il fallait retenir le sable du Sahara qui risquait d'arriver jusqu'à la Méditerranée,
oui,
par des plantations. C'est comme les Landes, quoi.
Exactement.
Comme le département des Landes. Oui. Il faut retenir le sable, le fixer. Merci à vous, Caroline Ford, votre livre chez Alma, Naissance de l'écologie. L'émission était préparée par Frédéric Martin, avec Valérie Estaraï à la réalisation, Loïc Frapsos à la technique. Il est 14h, vous écoutez France Inter.